Des clés pour grandir. Une émission pour les parents d'adolescents proposée par Nathalie Cardon.
Bénédicte Delélis, bonjour.
Bonjour.
Je vous reçois par téléphone. Vous êtes enseignante en théologie, mère de famille, auteur de nombreux ouvrages. Et aujourd'hui, particulièrement, je voudrais que vous nous présentiez cette biographie que vous avez consacrée à Claire de Castelbajac. Un livre que j'ai parcouru, qui se lit véritablement comme un petit roman. Et vous invitez le jeune lecteur à vivre, je dirais, une véritable rencontre avec cette jeune femme artiste très attachante. Bénédicte Delélis, quelle est la rencontre pour vous-même, mère de famille, enseignante en théologie, avec Claire de Castelbajac, cette servante de Dieu?
Ça, c'est une jolie question parce que c'est une rencontre qui a beaucoup compté dans ma vie. Quand j'étais en troisième, alors je ne sais plus très bien quel âge on est en troisième, mais les jeunes grands-parents et les parents sauront quel âge on est en troisième. Moi, j'ai oublié. Quand j'étais en troisième, j'avais une maman qui était venue dans ma classe, j'habitais Nantes, et cette maman était une amie de Claire, et elle était venue faire un témoignage sur Claire, qui était déjà morte. On était dans les années, je sais pas moi, 2000, des bananes, et elle était venue faire un témoignage sur Claire, et moi, j'étais renversée par ce témoignage, parce que la sainteté m'était toujours apparue comme quelque chose de magnifique, mais très lointain, et tout à coup, avec ce témoignage, il y avait une histoire de jeune fille normale dans la vie, une histoire il n'y a pas très longtemps, une histoire d'une fille en mobilette, les cheveux courts, qui allait en soirée, enfin quelque chose de proche de nous, et une histoire sainte, et une histoire lumineuse. Et donc je me rappelle encore où j'étais dans la classe près de la fenêtre, et de cette rencontre avec Claire, et de me dire, oh, ça c'est une vie comme ça que j'aimerais.
Alors, vous êtes écouté dans cette émission Des clics pour grandir, qui s'adresse tout particulièrement à des parents et des grands-parents. Qu'est-ce que vous pourriez dire à ces parents et grands-parents qui vous écoutent et qui ne connaissent peut-être pas encore aujourd'hui ce visage de Claire de Castelbajac, pour peut-être lire votre livre et l'offrir aux enfants et petits-enfants?
Alors, peut-être que Claire, il me semble qu'elle est un bon antidote à la grisaille. Claire, elle naît à Rabat, donc au Maroc, dans une ville assez très ensoleillée, elle a un coup de cœur pour ce lieu. Et puis, elle déménage quand elle est assez petite, dans sa toute petite enfance, dans le sud-ouest, à Lorette, qui est dans le Gers. Et elle tombe amoureuse de tout ce qu'elle rencontre. En fait, Claire, c'est un cœur aimant. Et donc, elle aime autant ses parents, ses frères et sœurs. Elle vient d'un second mariage. Son papa était veuf et il épouse une jeune artiste qui s'appelle Solange en deuxième mariage. Donc, elle sera l'unique enfant de ce second mariage. Mais elle a donc des demi-frères et sœurs du mariage précédent. Et donc, elle aime tout autant ses demi-frères et sœurs, la nature, ses voisins. Elle a un cœur aimant. Et donc, peut-être la première chose qu'on peut dire de cette petite fille, c'est que c'est on va l'appeler un ouragan de tendresse. Et ça, c'est déjà très touchant. Et elle a aussi une grâce de joie qui, je pense, est extraordinaire pour notre temps qui est si gris et si tristounet. Elle a une grâce de gratitude et de joie. Donc, toute petite, déjà, elle a cette grâce. Cette grâce de joie déposée dans son berceau.
Quel est son charisme? Quel est son secret, au fond, quand on vous écoute parler de Claire de Castelbajac et d'évoquer cette joie aussi de Claire?
Je crois qu'au départ, c'est vraiment un don naturel, comme chacun de nous, on a des talents, et elle a le talent de la joie et de la gratitude. Donc, par exemple, au lieu de recevoir un cadeau et de simplement dire merci, elle s'extasie, elle couvre les gens de baisers, enfin, elle a une espèce de don, d'aptitude naturelle pour la joie et pour la gratitude. Et puis, elle fait une expérience pendant son adolescence, et ça, je pense que ça parlera particulièrement aux ados, de trouver qu'en fait, la vie est beaucoup plus difficile que ce qu'elle n'avait pensé, et de réaliser que ce que les gens pensaient qui était la joie de Dieu en elle, les gens disaient, Claire possède la joie de Dieu. Et elle dit, ben non, en fait, à cette époque-là de ma vie, quand j'étais enfant, c'était tout simplement la joie de vivre. J'avais au cœur la joie de vivre. Et elle découvre, avec sa rencontre avec Dieu, qu'est-ce que c'est la joie de Dieu. La joie de Dieu, c'est quand tout va mal, mais que cette joie demeure et qu'on est plus joyeux parce que la vie est belle, parce qu'on a de quoi manger, parce qu'on est aimé, mais on est joyeux parce que Dieu nous aime et cette joie, personne ne peut nous l'enlever. Et c'est un peu la trajectoire qu'elle fait. Alors, je dis très brièvement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est un peu la trajectoire qu'elle fait de passer de la joie de vivre, qui était son don naturel, cette espèce de gratitude naturelle avec laquelle elle est née et qui la rend tellement attachante, à la joie de Dieu, qui est une joie qui passe plus alors même qu'elle est malade, alors même qu'elle a des soucis de santé, des graves soucis de sciatique. Elle est hospitalisée longtemps à l'hôpital de Toulouse.
Alors, on y reviendra, mais avant de partir vers ces derniers moments de la vie de Claire de Castelbajac, des événements aussi dans cette vie de jeune femme, cette vie aussi d'étudiante et l'expérience aussi à Rome. C'est un peu incontournable. Oui. Alors, deux, trois mots.
Quand elle est à l'hôpital de Toulouse, elle n'est pas encore du tout sur la fin.
Hein. Ah,
à
oui.
ce moment-là, elle est même avant d'aller à Rome. Et elle a une, et ce qui me frappe dans ce moment, c'est qu'elle a un accident, elle est très casse-cou, donc elle passe son temps
sur
la mobilette,
oui.
du trapèze et tout ça, et elle s'abîme beaucoup le dos.
C'est
et
vrai.
Ça, c'est peut-être une première expérience de maturité, c'est-à-dire qu'elle est quand même un peu dans le pétrin, elle peut pas passer son bac finalement, parce qu'elle est à l'hôpital, et elle garde cette joie. C'est pour ça que je l'ai situé à ce moment-là. Et puis après, en effet, elle passe son bac et elle part à Toulouse où elle a un peu dans un coup de chance, selon son récit très haut en couleur qu'elle fait de cette époque-là, sur un coup de chance et de travail quand même, elle obtient un concours d'une école qui s'appelle le Restauro, qui est une école de restauration d'œuvres d'art. Et donc elle part à Rome, elle a 18 ans, et elle découvre un peu une vie loin de ses parents, une vie de liberté grisante où elle a plus du tout de cadre. Et là, c'est ce qu'on va appeler un peu sa crise de foi, c'est ce que sa maman appellera une grande crise de foi dans la vie de Claire, où en fait, elle est autour d'elle, il n'y a que des gens athées, ou que des gens qui vivent emportés par leurs élans, et elle a ce tempérament très passionné, et donc elle les imite, et elle perd tout cadre, et donc elle a un oncle qui est à Toulouse qui est assez inquiet, parce qu'elle dépense de l'argent à gogo, elle a plus d'horaire, elle travaille plus, et donc elle a un espèce de moment où elle est complètement dissipée, en fait, on pourra dire dissipée, et elle commence à ne plus aller à la messe, elle commence à perdre peu à peu cette joie, et donc elle-même elle est déboussolée et elle se rend compte, et à un retour en vacances à Lorette chez elle va à Lourdes, et là elle est ressaisie par la Sainte Vierge. Et elle est rattrapée, en quelque sorte, rattrapée de ce moment où sa maman va s'inquiéter, ses amis vont s'inquiéter en disant « Claire, on est en train de perdre Claire. On est en train de perdre Claire, elle devient une fille comme les autres, elle s'évapore, elle s'agite. » Et elle-même, elle dit « J'étais à ce moment-là dans une solitude immense et elle avait perdu sa joie. »
Cette joie revient tout au long de cet entretien, Bénédicte de Lélis, quand on évoque Claire de Castelbajac, quand on vous entend aussi dans cet épisode de Claire qui devient finalement et entre dans cette étape de la vie étudiante, on peut penser aussi à tous ses parents qui aujourd'hui ont encore peut-être des étudiants à la maison qui sont aussi, comme Claire, passent et traversent cette tentation un peu déboussolée, qui déboussole les grands-parents et les parents. Claire, on peut la prier ?
Alors Claire, on peut la prier. Et puis,
pour les étudiants.
Pour les parents et les grands-parents, c'est que justement, pendant ce moment-là, je trouve que la maman de Claire, elle est assez âgée, parce que c'est une femme qui a eu un enfant assez tardivement, et on aurait pu penser qu'elle allait s'affoler. Et tout ça. Je trouve qu'elle a une réaction magnifique. Elle continue à tout le temps parler avec Claire, et il y a cette ouverture de cœur perpétuelle entre la maman et la fille. Et Claire ne cache pas d'ailleurs ses tentations, ce que je trouve très très beau, pour si on parle à des parents et des grands-parents, cette ouverture de cœur de Claire qui dit bah oui, je croise des beaux garçons, finalement vous m'avez toujours appris à attendre mes fiançailles pour sortir avec quelqu'un, mais en fait à quoi bon, et elle ne cache pas à ses parents qu'elle est tentée par un flirt, et donc il y a cette espèce de belle ouverture de cœur qui a été certainement rendue possible par une maman qui a rendu le dialogue possible et qui va pas s'offusquer, pas s'affoler, pas lui dire je sais pas quoi, mais qui garde toujours la porte ouverte et qui dialogue et qui prie. Et ça, c'est très frappant de voir que eux, qu'est-ce qu'ils font à Toulouse ou à Lorette, là, pendant que leur fille est agitée et qu'ils la sentent un peu en perdition à Rome, ils prient. Ils ne lui font pas de reproches, ils ne lui font pas la morale, mais ils prient. Et puis quand elle revient, ils l'accueillent à bras ouverts, ils adorent l'hôte, ils lui font ses bons repas préférés, et elle retrouve cet équilibre, en fait, à la maison, entre papa, maman, la Sainte Vierge, pas loin, à Lourdes. On sent qu'il y a ce dialogue permanent, et ça, c'est quand même... Peut-être qu'on peut aussi prier les parents de Claire, qui sont morts aussi, pour nous apprendre à éduquer nos ados, parce que je crois qu'ils ont été vraiment remarquables avec Claire dans cette période qui aurait pu... Et d'ailleurs, la maman le dit bien, elle n'était pas tellement inquiète. Elle était surtout inquiète de sentir que sa fille allait perdre la foi. Et elle a bien senti que Claire était menacée de perdre la foi. Et donc, elle a prié de toutes ses forces et de toute son âme, et elle a été exaucée, vraiment, parce que Claire... Et elle va faire un pèlerinage aussi donc à Lourdes, puis ensuite l'année suivante en Terre Sainte, qui va achever, comme elle dit, de la convertir Bon, bien sûr qu'elle était chrétienne, mais elle est de nouveau attachée à Jésus-Christ de manière bouleversante. Et quand elle revient de ce pèlerinage, tout le monde la trouve transfigurée. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Elle brille d'une espèce de lumière étonnante. Sa joie de vivre est devenue une joie de Dieu. Une joie du ciel, en fait.
Au fond, quand on vous écoute, Bénédicte de Lillis, auteur de cet ouvrage, hein, Claire de Castelbajac, aux éditions Emmanuel Jeunesse, c'est une sainte et c'est la sainte de la joie que vous décrivez.
La sainte de la joie.
Ah,
la
oui?
sainte de la louange. Et il me semble que ce don de gratitude qu'elle avait enfant, de dire à ses parents « Je vous aime, merci », ce qui est déjà un don merveilleux, il est devenu un don de louange et elle s'est épanouie dans une louange et elle va dire à la fin, elle rentre, donc au moment de Noël, elle rentre d'Assise où elle restaurait des fresques et on est au moment de Noël, elle retrouve ses parents et elle a cette phrase que je trouve extraordinaire, elle dit « Si je mourais maintenant, oui. je crois que j'irai au ciel tout droit parce que le ciel c'est la louange de Dieu et j'y suis déjà ». Et là, la maman l'écoute et elle se dit qu'il s'est passé quelque chose avec Claire. Elle est bouleversée parce qu'elle se dit « Ma prière a été exaucée, j'ai tellement prié pour que Claire garde la foi ». Et elle est resplendissante de foi. Et à la fois, la maman est un peu interloquée, elle se dit « Il y a quelque chose quand même ». Le ciel, c'est la louange de Dieu et j'y suis déjà. Et donc, sa maman est un peu renversée par cette phrase. Et puis, le temps passe, on fête Noël et c'est là que Claire va avoir cette méningite qui va l'emporter en une semaine à la fin du mois de janvier.
Le 22 janvier 1975, voilà. Donc...
Exactement, elle est emportée en quelques semaines et ses dernières paroles...
Elles sont fortes, vous pouvez donner ses dernières paroles.
Il faut que je le loue. On lui demande, le prêtre de la paroisse va venir, elle ne reconnaît plus personne, elle a tellement mal à la tête.
Oui.
Elle va réussir à dire « Je vous salue Marie très... » Elle répète « je vous salue », c'est juste ce qu'elle arrive à dire. Ses dernières paroles à ses parents, c'est « Je vous aime, vous êtes bon », ce que je trouve qui caractérise tellement bien Claire, qui n'a pas cessé de dire qu'elle aimait les gens avec beaucoup de tendresse. Mmh. Et puis, elle voit le père, elle le reconnaît, le prêtre de la paroisse, elle dit « Apportez-moi, apportez-moi », et donc on ne sait pas trop ce qu'elle demande, peut-être l'Eucharistie, « Il faut que je le loue ». Et c'est ses dernières paroles.
Merci.
Extrêmement fort.
Merci infiniment. Merci infiniment, Bénédicte de Lillis, pour ces quelques minutes de présentation de ce beau portrait de cette servante de Dieu, Claire de Castelbajac, décédée à l'âge de 21 ans, le 22 janvier 1975. On peut, et moi j'invite les parents, grands-parents qui vous ont écouté aujourd'hui, si vous souhaitez offrir un cadeau de lecture, lecture spirituelle qui nourrisse l'âme et le cœur, n'hésitez pas donc à commander dans cette série des témoins de l'invisible, Emmanuel Jeunesse, Claire de Castelbajac, de Bénédicte de Lillis. Merci Bénédicte.
Merci beaucoup, avec grand plaisir.
Je vous propose de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre serviteur de Dieu, un bienheureux Carlo Acosti. À la semaine prochaine. Merci.
À la semaine prochaine, au revoir.